La semaine passée, on a commencé l'Église avec le verset de le discours que Jésus a dit dans Matthieu, le chapitre 16, quand il a dit aux disciples, « Je bâtirai mon Église ». C'était quelque chose de nouveau pour les apôtres dans Matthieu 16. Première fois que Jésus parle de l'Église, il en parle dans Matthieu, le chapitre 16, verset 18, où il s'adresse à Pierre, et après ça, il s'adresse aux apôtres. Et il parle de l'Église, puis c'est la première fois et c'est la dernière fois. Alors, on a vu la semaine passée que Jésus a fait une déclaration fracassante en disant « Je bâtirai mon Église ». Et aujourd'hui, on continue cette série de messages sur l'Église. Encore une fois, pourquoi l'Église? Pourquoi aller à l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Quand est-ce que l'Église est née? Qui était dans l'Église? Toutes ces questions-là qu'on peut se poser. Alors, ça va être le sujet de mes prochains messages, tout ce qui a rapport à l'Église. Alors, ce matin, on va aller dans le chapitre, dans le livre des Actes des apôtres, le verset 1. Actes des apôtres, le verset 1. Pour comprendre tout ce qui a rapport avec l'Église, il faut absolument lire le livre des Actes. Dans mon livre à moi, c'est mon livre préféré de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un livre actuel. Nous sommes encore dans le livre des Actes. Je crois le chapitre 28. Les Actes finit avec le chapitre 28. On est encore dans le chapitre 28. L'Église n'est pas terminée. On continue à bâtir l'Église. Alors, le titre du message ce matin est « La naissance de l'Église ». Et nous lisons dans Actes, chapitre 2, verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La naissance de l'Église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Alors, quand il a fait cette déclaration-là, c'est certain qu'il y a quelque chose qui s'en venait, qui était l'Église. Et j'étais avec quelqu'un, il y a plusieurs mois, qui est allé faire un voyage en Italie, qui est allé à Rome. Puis il a visité Rome, puis il a visité, vous savez, les grottes, les catacombes, les grottes souterraines, où que l'Église, dans le temps des Romains, dans le temps de l'Empire romain, les catacombes où les chrétiens se cachaient dans des grottes à cause de la persécution. Et on était plusieurs personnes, puis ils disaient que l'Église, la première Église était à Rome. Mais malheureusement, la première Église n'était pas à Rome. La première Église, c'est l'Église de Jérusalem. Après ça, il y a eu une Église à Rome, un petit peu plus tard. Ça, c'est vrai, on sait par l'histoire, les documents et l'épître de Paul aux Romains. Mais la première Église, c'était à Jérusalem. La naissance de l'Église a été à Jérusalem. Qu'est-ce que l'Église? On dit que l'Église, selon le dictionnaire, c'est une communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Elle est spirituelle et elle est le corps du Seigneur. Je pense que je vais la répéter. Communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit s'unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. C'est pas tout le monde qui est dans l'Église. C'est une communauté de chrétiens, c'est une communauté de croyants qui croient en Jésus. Ça, c'est l'Église. C'est pas une religion, c'est pas une secte, ce sont des croyants régénérés par le Saint-Esprit. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas commencé à Rome, elle a commencé à Jérusalem. Elle a un début, elle a une fin. Elle commence dans Actes des Apôtres et elle finit dans le livre de l'Apocalypse. Elle commence vraiment dans le livre des Apôtres. On peut la voir plus en profondeur dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean. Puis elle prend fin dans l'Apocalypse. C'est une église de croyants qui vont pour la plupart à l'église, dans un bâtiment où il y a des réunions. C'est une église qui est très diversifiée en plusieurs groupes, des baptistes, des pentecôtistes, des méthodistes, des presbytériens, etc. C'est des gens qui prennent position contre l'avortement, contre l'homosexualité, qui prennent une position pour l'éducation chrétienne à l'école, qui met l'accent sur les valeurs familiales, l'honnêteté, la lecture de la Bible, le don de soi. Ça, c'est l'Église qui prêche le message de l'Évangile, l'acceptation de la mort de Jésus-Christ sur la croix, et qui prêche, comme dit la Bible, qu'il va y avoir un jugement pour tout le monde à la fin des temps, puis qu'il va y avoir le paradis, qu'il va y avoir l'enfer. C'est plusieurs personnes, c'est des centaines de millions de personnes dans le monde. Ça, c'est l'Église. Et c'est notre histoire, c'est nous autres, l'Église, c'est notre histoire. Si vous avez accepté, si vous avez pris position pour Jésus-Christ, c'est votre histoire. C'est comme la naissance, aujourd'hui on va parler de la naissance de l'Église, c'est comme la naissance de n'importe quoi, d'un empire financier, d'un projet immobilier, c'est comme la naissance d'un enfant, c'est quelque chose d'important. Vous savez, la naissance de quelque chose, c'est important, la naissance d'une personne, c'est important. Vous savez que la naissance d'un enfant, c'est préparé, c'est pensé depuis des années, il y a des préparatifs, souvent on va décorer la chambre, on va penser qu'on va peut-être prendre un retrait préventif si on travaille, on fait des prévisions, parce qu'il y a une naissance qui s'en vient. Alors Dieu a fait la même affaire, Dieu a prévu. L'Église n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Ah, Jésus est sur la croix, il est mort sur la croix, puis on fait notre vie, puis c'est pas comme ça. Dieu a prévu ça, Dieu a tout prévu. Il a prévu depuis la fondation du monde qu'il y aurait une assemblée de croyants pour le glorifier. C'est l'inauguration d'un grand événement. Puis une préparation qui a commencé avant l'Église. C'est quoi la préparation? Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait des préparatifs en vue de la naissance de l'Église. Alors Dieu a préparé depuis la fondation du monde, mais dans la Bible on voit que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé, il a parlé de lui dans l'Ancien Testament. Il a parlé à travers les prophètes, afin qu'il y ait un peuple qui le connaisse. Alors, il a commencé dans l'Ancien Testament. Après ça, arrivée du Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné. Dieu a commencé à parler de lui, pour que les gens comprennent toute la nature de Dieu. Et après ça, il s'est fait homme, alors il est venu, Jésus est venu. Vous savez que c'est une trinité, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, Dieu s'est Dieu s'est révélé, après ça, il dit, je vais aller rejoindre mon peuple. Alors, il s'est incarné, Dieu est venu en chair. Ça, c'est une révélation, c'est la vie de Jésus, la naissance du Christ dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus a vécu, une trentaine d'années après, il y a eu la mort et le sacrifice de Jésus, la rédemption, le rachat de l'humanité par Jésus-Christ. Alors, Jésus reprend une nouvelle alliance avec l'humanité. Quatrième point, il y a eu la résurrection d'entre les morts. C'est comme si c'est l'acte de Dieu qui donne une approbation par laquelle il y a un nouveau chemin qui est né, il y a un nouveau chemin qu'on peut aller vers Dieu. Et après, il y a l'arrivée de l'Église de Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, la naissance de l'Église n'est pas arrivée comme cela. Il y a eu des préparatifs. Dieu s'est préparé. Alors, l'Église n'est pas arrivée banalement. L'Église a été pensée, l'Église a été prévue, et Dieu a montré à l'humanité par ses livres dans l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé. Puis plus tard, on verra dans nos prochaines études comment Dieu a fait une alliance. Les gens disent, Dieu, qui est Dieu? Dieu n'existe pas. Savez-vous que Dieu a fait 8 alliances avec l'humanité? Alors, Dieu a tout préparé, comme on peut préparer la nouvelle venue d'un enfant, qu'on peut préparer un projet, tout. C'est la même chose pour Dieu. Dieu a fait une préparation afin qu'il y ait une naissance, afin que l'Église prenne forme. Deux choses importantes. Le livre des Actes, c'est la naissance de l'Église. Si vous voulez voir c'est quoi l'Église, si vous voulez comprendre ce que c'est l'Église, comment l'Église est arrivée, c'est dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est la naissance de l'Église et c'est le ministère du Saint-Esprit. Vous savez, l'Église, c'est un mystère. Ça a toujours été caché. Tu sais, des fois, tu caches des petites choses. Là. Tu veux pas que les autres le savent. Là. Des fois, tu peux cacher. Je vais prendre un exemple chez nous. Des fois, il y a des petites barres de chocolat qui sont cachées. Ils sont cachés dans des petits morceaux de chocolat qui sont cachés. Personne ne le sait, sauf la personne qui les a cachés. Puis des fois, on surprend la personne. On dit, quoi? Ah, c'est ma petite cachette. C'est mon petit secret. Puis là, puis nous autres, qu'est-ce qu'on... Non, non, non. C'est pas pour toi. Puis je sais pas si c'est un exemple que je donne, là, c'est parce que ça me faisait penser à ça. Là. C'est un secret. Dieu, c'est la même affaire. L'Église, c'était un mystère, c'était un secret pour Dieu. Et tranquillement, il a commencé à révéler l'Église. L'Église n'était pas révélée dans l'Ancien Testament. L'Église n'a pas été révélée dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, sauf une fois alors que Jésus en parle, un ou deux versets. L'Église n'est plus dans l'Apocalypse, l'Église est seulement dans le livre des Actes et dans les épîtres du Nouveau Testament. L'Église, c'est un mystère, c'est un secret pour Dieu. Et on ne peut pas donner naissance à l'Église sans avoir quelque chose avec. L'Église ne peut pas arriver comme ça sans avoir l'aide de quelqu'un. Vous savez, les apôtres avaient l'aide de Jésus. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Puis quand on regarde à la mort de Jésus, il n'était plus là. Il ne savait plus quoi faire. Pierre l'a même renié. Les apôtres avaient besoin de Jésus, comme le peuple d'Israël avait besoin de Dieu dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, les croyants, ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas quelqu'un avec eux autres. Dans l'Ancien Testament, vous allez dire c'est loin, mais c'est tellement important, c'est que Dieu commençait à se révéler dans les Juifs, la nation d'Israël. Puis quand ils ont sorti d'Égypte, il y avait besoin, qu'est-ce que la Bible dit, qui était conduit par la nuée de Dieu. Puis à un moment donné, ils ont dit, ils ont pris Dieu puis ils l'ont enlevé. Bon, ils n'ont pas besoin, on est capable de s'organiser. Là, Dieu leur avait dit, non, puis il avait mis une ligne de conduite, il avait mis les 10 commandements, c'était un principe de conduite. C'était pas assez, il avait mis des lois, 313 lois. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous savez, quand on a des enfants, on dit tout le temps ça. Hein? Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, tu peux pas. Tu te couches à 8 heures. Tu te lèves à telle heure. Tu peux pas manger seulement de dessert. Vous savez, c'est la même chose. Dieu avait dit à son peuple la même affaire. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis le peuple, à un moment donné, il a dit, oh, non, on va s'organiser. Ils se sont très mal organisés. Ils ont tourné en rond 40 ans dans le désert. Alors ça, c'est l'histoire d'Israël. Les apôtres, il y a besoin de Jésus. Qu'est-ce que l'Église a besoin? Du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai mon Consolateur. Il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Trinité. Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus dans les Évangiles et le Saint-Esprit dans l'Acte des Apôtres. Alors, Actes des Apôtres, c'est le livre du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Encore là, le Saint-Esprit n'était pas l'Ancien Testament. L'Esprit pouvait tomber sur une personne, mais elle ne restait pas avec tous les croyants. Le Saint-Esprit n'était pas dans les Évangiles. Le Saint-Esprit a commencé son rôle dans Actes des Apôtres. Et c'est pourquoi, il y a une raison pourquoi c'est le Saint-Esprit. Pour rassembler les croyants ensemble et établir l'Église. Il faut bien comprendre que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle dispensation. Si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est seulement, c'est une période de temps et l'Église avait besoin, c'est nouveau, c'est la mort de Jésus, c'est la naissance de l'Église, on peut croire en Jésus, être sauvé, c'est tout nouveau, ça prend le Saint-Esprit. Parce que les Juifs étaient assujettis à la loi de Dieu. Les Juifs allaient au temple. Les Juifs étaient habitués dans leur religiosité. Jésus a tout enlevé ça. Et Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Là, les apôtres ne comprenaient pas, mais il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit va venir le Consolateur. Puis lui, il va faire de plus grandes choses que moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est partout. Alors que Jésus était seulement avec les apôtres. Alors, le Saint-Esprit aujourd'hui, quelqu'un qui croit, le Saint-Esprit habite chaque croyant et le dirige. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, il y a quelqu'un qui fait une méchante gaffe. Quelque chose, là, qui était... Puis là, les apôtres vont le chercher puis ils disent, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Alors, voyez-vous comment que le Saint-Esprit est à l'œuvre? C'est le Saint-Esprit qui dirige dans l'Acte des Apôtres. Des hommes et des femmes qui ont part au salut de Dieu, baptisés du Saint-Esprit, appelés le corps de Christ. Paul a dit, non pas une nation, mais juifs et gentils sont un en Jésus-Christ. Chacun dans l'Église est conduit par le Saint-Esprit. Chacun est placé dans le corps de Christ à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 5, Jésus avait dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit et l'Église, c'est ensemble. Il faut bien comprendre ça. L'Église n'est pas accessible pour tout le monde. Désolé. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'Église. On ne peut pas comprendre ça, c'est Dieu qui décide. C'est seulement accessible par la révélation du Saint-Esprit. Ça prend la touche du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas par le Saint-Esprit, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 10, c'est écrit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, ça veut dire le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Il faut avoir une révélation. C'est le Saint-Esprit. Des fois, on met de côté le Saint-Esprit, on pense à Dieu. Dieu a tout créé, Dieu a tout fait. Dieu. Après ça, on pense en Jésus qui est mort sur la croix. On oublie souvent le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu parler, souvent vu des nouvelles qui parlaient du Saint-Esprit. Pas souvent. Des fois, on parle de Dieu, on parle de Jésus à Pâques, à Noël. Saint-Esprit? Personne. Mais on va en parler du Saint-Esprit. Alors, avec des apôtres, la naissance de l'Église, le Saint-Esprit, mais Dieu inaugure la naissance de l'Église par un phénomène. Dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, il inaugure la naissance de l'Église par un phénomène. Le phénomène de Actes, chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. Alors, c'était le jour de la Pentecôte, comme on a dit, comme on a commencé au chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. C'est quoi le jour de la Pentecôte? Je vais faire ça vite. C'est une fête qui était dans l'Ancien Testament, qui était la fête des semaines pour les Juifs. On appelait ça la fête des semaines, 50 jours après la fête de Pâques. Si vous cherchez la fête de la Pentecôte aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais dans ce temps-là, à cause de la loi des Juifs, il y avait une fête qui s'appelait la Pentecôte. N'oubliez pas qu'on est à Jérusalem. Selon la loi mosaïque, la Pentecôte devait être célébrée un dimanche. Quelle coïncidence! Alors, l'Église est née un dimanche. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, qui était à peu près 120, puis ils priaient. Qui étaient dans une chambre haute, puis qui priaient. Chapitre Actes, verset 1, chapitre 14. Tous d'un accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je vais faire ici une petite... regardez comme qu'est-ce qui était écrit. Ils priaient avec les hommes, les femmes, les frères de Jésus et Marie. Marie priait avec eux. Alors, ce qu'on dit dans la religion catholique, qu'on peut prier Marie, mais pourquoi prier Marie? Parce que Marie priait avec les apôtres. On n'a pas à prier Marie. Marie était avec les apôtres. Alors, c'est une hérésie, on ne peut pas prier Marie. Marie est comme nous, on l'aime bien, on reconnaît que c'est la mère de Jésus, mais on ne doit pas la vénérer. Ce n'est pas une idole, c'est quelqu'un, c'est une femme qui a été choisie, c'est une femme qui était probablement exceptionnelle, mais on n'a pas à la prier. Puis Jésus avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors Marie a été baptisée du Saint-Esprit, elle aussi. Alors Marie était comme tout le monde. Alors, soudainement, l'Église est née. La Bible dit que, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Instantanément, le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Un souffle, on dit que il y a un souffle qui est arrivé. Le souffle est symbole du Saint-Esprit dans la Bible. C'est comme s'il y a eu un rugissement, c'est comme s'il y a eu un tremblement. C'est écrit tout à coup. Dieu est comme ça. Dieu, c'est un Dieu de tout à coup. C'est un Dieu de soudainement. Les apôtres étaient là comme Jésus leur avait enseigné. Et il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Vous savez, des fois, là, on est dehors, puis il y a un vent, là, comme on s'en attend pas, là. Mais là, c'était pire que ça. C'était vraiment un vent, là, quelque chose de fort. On dit que c'est le souffle de Dieu, c'est venu du ciel. C'est comme si Dieu avait soufflé quelque chose et le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute. Ils ont été complètement immergés, baptisés, imbibés du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire, le souffle de Dieu, la naissance de l'Église. Ce n'est pas la présence de Dieu dans l'Acte des Apôtres. Ce n'est pas dans la chambre haute, ce n'est pas la présence de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, « Tu ne peux pas me voir et vivre. » Alors, les gens qui disent souvent, « On était dans la présence de Dieu », il faut faire attention. C'est la présence du Saint-Esprit. Dieu est dans la présence de Dieu. Il a dit à Moïse, il dit, « Si tu es dans ma présence, tu ne vivras pas. » Il dit, « Cache-toi, puis je vais passer. Mon ombre va passer. » Et souvent, on dit, « Dieu m'a parlé. » Oui, Dieu parle. Il faut faire attention aussi, parce que dans l'Ancien Testament, le Dieu a commencé à parler au peuple, et le peuple a dit, « Non, arrête de parler, je ne suis plus capable. On n'est plus capable de t'entendre. C'est trop fort. » Il allait se cacher dans les montagnes. C'est pour ça qu'après ça, il a commencé à parler par les prophètes. Alors, quand on dit, « Mais semble que j'ai une petite voix, quelque chose qui m'a parlé, c'est souvent le Saint-Esprit. » La présence de Dieu, c'est complètement autre chose. Dans l'Apocalypse, c'est écrit que Dieu est là, le Dieu, le grand trône blanc est là, le juge, parce qu'il appelle le juge. Le ciel et la terre s'enfuient devant la présence de Dieu. Alors, de dire que Dieu est ici ce matin dans le local, il faut faire attention. On peut dire que l'Esprit de Dieu est là, il y a le souffle de Dieu, mais la présence de Dieu, mon ami, ouf, c'est extraordinaire, là. Dieu est spirituel. Alors, la présence de Dieu, c'est toute une autre chose. On apprendra plus tard. Alors, c'est une régénération du Saint-Esprit qui est arrivée dans la chambre haute, qui a donné une nouvelle vie, un nouveau départ pour chaque croyant. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? » On est le temple du Saint-Esprit. Et pour être le temple du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est arrivé. Il fallait qu'il y ait un phénomène qui arrive. Il fallait qu'il y ait un baptême qui arrive. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui arrive. On ne peut pas avoir seulement le Saint-Esprit en faisant « J'ai le Saint-Esprit », puis non. Il fallait qu'il y ait un phénomène surnaturel qui arrive dans la chambre haute qui donne le Saint-Esprit aux apôtres. Il y avait quelque chose qui est arrivé, quelque chose de fort. C'est une naissance. Quand on naît, il y a quelque chose qui est dû, qui est quelque chose qui a été préparé, puis on n'est pas né comme ça, l'Église n'est pas née comme ça, sans avoir pour dire oh, ben, on va prendre la touche du Saint-Esprit en sortant. Non, c'est le Saint-Esprit est arrivé surnaturellement, selon la bonne volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça l'a fait? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire quand il y a une onction du Saint-Esprit? Comment que le Saint-Esprit peut être fort? Ça a produit une vision. Une vision. Chapitre, le verset 3, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posant sur chacun d'eux. » Des langues de feu. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une vision. Faut s'attendre, quand il y a l'onction du Saint-Esprit, d'avoir une vision, ça peut arriver. Et là, c'était fort. N'oubliez pas, on est dans le début, avec des apôtres. Il y a toutes des choses qui s'en viennent après ça. Avec des apôtres, c'est un livre extraordinaire. Extraordinaire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit arrive dans la chambre haute, oui, il y a comme un vent pour montrer aux apôtres, dirait un peu, là, le Saint-Esprit arrive. Ça a produit des choses, une vision, des langues de feu. Ce n'était pas du vrai feu, parce que tout le monde aurait brûlé, c'est certain. Mais c'était comme c'était des langues qui ressemblaient à du feu, leur apparence comme celle d'une flamme éclatante. Il est dit que des langues individuelles se posèrent sur chaque personne présente. Alors, il y a comme des langues qui se sont posées sur chaque personne. Puis, ils ont une vision de voir des langues. Ça aurait pu être d'autres choses. Mais c'était vraiment précis. C'était des langues. Il fallait que ce soit des langues aussi. Tout ça pour dire que ça le produit une vision. Et après ça, ça le produit une deuxième chose, un miracle. Ça le produit le don des langues. Qu'est-ce que le don des langues vient faire? Ça le permet aux apôtres qui étaient là de pouvoir parler dans une autre langue. Ils ont eu la vision, puis là, ils ont pu, avec le don des langues, parler à qui? Dans Actes des apôtres, quand ils ont descendu de la chambre haute, il y avait beaucoup de personnes, parce qu'il y a eu tellement un vent, un tremblement de terre, alors il y avait des gens qui étaient là. Il y avait des Juifs, mais il y avait des Juifs qui venaient de plusieurs endroits dans ce temps-là. Il y avait des Juifs qui venaient de la Grèce, il y avait des Juifs qui venaient de plusieurs lieux en dehors de Jérusalem. Ils parlaient d'autres langues. Et on voulait témoigner de l'Évangile à ces gens-là et on voulait avoir leur attention. Puis la première chose qu'il fallait, c'est qu'il fallait leur parler dans leur langue. Alors, il y avait de l'hébreu, il y avait du grec, il y avait du latin, il y avait de l'araméen. C'était des langues qui étaient à l'époque. Alors, les apôtres ont descendu, ils ont vu une vision de langue pour bien comprendre, ils ont la vision, et là, il y a le miracle, ils commencent à parler dans d'autres langues. Ils descendent, puis ils commencent à témoigner dans une autre langue. Selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui? Ça pourrait arriver. Que le Saint-Esprit puisse vous permettre de parler dans une autre langue. Pour exemple, témoigner à quelqu'un pendant 5-10 minutes, ça pourrait arriver. Mais ça, c'était vraiment spécifique pour Actes des apôtres. Alors ça, c'est un miracle. C'est le miracle du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit arrive comme un vent violent, un vent impétueux, quelque chose qui a un tremblement de terre. Parce que Dieu, quand Dieu se révèle, ça, c'est rien qu'une petite parcelle de Dieu, du Saint-Esprit. C'est une petite parcelle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire. On va voir ça plus tard. Alors, ça, c'est arrivé. Il y a une vision. Après ça, il y a des miracles. Il y a un miracle du don des langues. Les gens descendent, puis commencent à témoigner. Ils commencent à témoigner aux gens. Et Pierre commence à parler, les gens se sont estomaqués devant devant ce qui se passe. Et là, Pierre commence à parler, il commence à témoigner de l'Évangile. Il y a 3000 personnes qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est la naissance de l'Église. Ça, c'est la naissance, c'est la façon que l'Église a commencé. C'est l'effusion du Saint-Esprit qui donne une nouvelle dimension. Et pour les apôtres, après ça, il y a une vision, don des langues, et ils sont capables d'aller témoigner, c'est le premier départ, puis ils témoignent aux gens, puis il y a 3000 personnes qui ont cru. Et il y a une nouvelle église qui commence, 3000 personnes dans la première journée de l'église. Tu vas penser un peu comme ici, là.
Amen.
De toute façon, même si on avait 3000 personnes, ça ne serait pas assez grand, puis on ne pourrait pas. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, c'est la naissance de l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la signification de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Premièrement, la venue du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Deuxièmement, c'est arrivé par trois signes, c'est pas arrivé n'importe comment. Dieu fait les choses vraiment progressivement, il fait les choses selon sa volonté. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut être à l'ordre. Dans tout ce qu'on fait, il faut être à l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Bruit d'un souffle, un souffle qui arrive. Après ça, il y a l'apparence du feu, les langues qu'on voit, et le don des langues. Et après ça, il y a beaucoup plusieurs dons du Saint-Esprit qu'on va voir plus tard. Alors, deuxième chose, la signification de la Pentecôte. Troisième signification, la Pentecôte représente l'offre du don de l'Esprit. C'est l'Esprit qui est disponible, qui réside dans chaque croyant à partir des actes. Quatrième chose, la signification de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit a été rendue disponible. Si l'Église est capable aujourd'hui de grossir, de prospérer, c'est grâce au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut fonctionner. Ça prend le Saint-Esprit. Cinquième point, ça marque le début de l'Église, sa naissance. Signification de la Pentecôte, cinquième point, le début de l'Église, sa naissance. Sixième point, l'Évangile qui est accessible à tout le monde, aux Juifs, aux Samaritains, aux gentils. Aux gentils, c'est les gens qui n'étaient pas des Juifs. Septième point, Dieu va commencer, pas Dieu, mais Pierre va commencer à prêcher l'Évangile. Pourquoi? Matthieu 16, verset 19. Il a reçu les clés du royaume. Jésus lui a donné les clés du royaume. Alors, c'est Pierre qui commence à prêcher. Ça ne pouvait pas être une autre personne que Pierre. Pierre devait prêcher dans l'Acte des apôtres. Et huitièmement, ça représente le début de l'Évangile, ça représente le début de l'Église, ça représente la bonne nouvelle qui est prêchée à travers le monde entier. Alors, ils ont commencé à prêcher et il y a 3000 personnes qui ont été sauvées. Alors, il y a un début. Ça, c'est le début de la naissance. Ça, c'est la naissance de l'Église. Si quelqu'un vous demande l'Église, il y a une naissance. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 1. Ça, c'est la naissance de l'Église. Si on voit des églises aujourd'hui, le pourquoi des pourquoi, c'est Acte des apôtres. Et on voit un petit peu plus tard que les gens, après avoir entendu cela, c'est-à-dire l'Évangile de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Alors, Pierre commence à prêcher l'Évangile et il y a une façon. Il a prêché l'Évangile. Là, les gens, ils ont dit, « Tu nous prêches l'Évangile, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans l'Église? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire partie de l'Église? » Pierre leur dit une chose, « Repentez-vous. » C'est le petit côté de l'Église qui était un petit peu moins... un peu moins drôle, parce que les gens disent, « Tout le monde fait partie de l'Église. » Tout le monde est sauvé, tout le monde fait partie de l'Église, tout le monde croit en Jésus-Christ. Tu crois-tu en Jésus? Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Non. Là, les gens sont touchés, puis ils disent, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre leur dit, repentez-vous. C'est seulement ça, l'Église, c'est seulement ça. C'est quoi se repentir? C'est de renoncer à sa vie. La Bible dit qu'on est pécheur. Puis qu'il faut enlever cette vie-là. Il faut demander pardon pour nos péchés. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour qu'il puisse pardonner nos péchés. Puis ça, on l'a pas. Ça, c'est une naissance. C'est pas notre faute. C'est pas la faute à personne. C'est la faute à une personne qui est Satan qui a mis le péché dans le monde. Puis c'est pour ça que le monde, ça va mal comme ça. Alors, ils ont dit, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans l'Église? Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors, repentez-vous et il va y avoir un baptême. Un baptême d'eau pour la démonstration de votre foi. Alors ça, c'est la clé, frères et sœurs, la clé de faire partie de l'Église, de la naissance de l'Église, il faut se repentir. Alors, je prendrai 30 secondes. On ferme nos yeux, s'il vous plaît. On ferme nos yeux 30 secondes et on demande au Saint-Esprit qui est ici de faire une action surnaturelle. Et Pierre a dit, repentez-vous. Puis si vous êtes ici ce matin, puis il y a des choses que vous ne comprenez pas, puis il y a des choses que vous n'êtes pas certain, puis il y a des... Moi, je vous dis que